s'offrir avec vous ce soir, chers amis, et avec le cours du Seigneur, la parole de Dieu, en différents passages, au fur et à mesure que le temps le permettra. Et tout d'abord, au livre de la Genèse. Nous lirons quelques versets au chapitre 13. Chapitre 13 du livre de la Genèse. Et au verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chênes de Mamré qui sont à Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Quelques pages plus loin, nous lisons un court récit au chapitre 23. Et la vie de Sarah fut de 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et Abraham se leva de devant son mort, et il parla au fils de Heth, disant, « Je suis étranger, habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre parmi vous, et j'enterrerai mon mort de devant moi. » Et les fils de Heth répondirent à Abraham, lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Et un peu plus loin, et Abraham, au verset 12, se prosterna devant le peuple du pays, et il parla à Éphron aux oreilles du peuple du pays, disant, « Si pourtant tu voulais bien m'écouter, je donne l'argent du champ, prends-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham, lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre donc ton mort. » Et Abraham écouta Éphron, et Abraham posa à Éphron l'argent dont il avait parlé en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, et en cours entre les marchands. Et au verset 19, « Et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et le champ et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour les posséder comme sépulcre de la part des fils de Heth. » Et encore un verset à la fin du livre, le même livre de la Genèse. Verset 29. Et Jacob leur commanda, il parla à ses fils, et leur dit, « Je suis recueilli vers mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne, qui est dans le champ d'Éphron le Héthien, dans la caverne, qui est dans le champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, et qu'Abraham acheta d'Éphron le Héthien avec le champ, pour la posséder comme sépulcre. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. L'acquisition du champ et de la caverne qui y est fut faite des fils de Heth. Et quand Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et expira, et fut recueilli vers ses peuples. Dans les mondes d'abord. On sait, chers amis, que Abraham est la figure centrale du livre de la Genèse. Homme de foi, ami de Dieu, croyant en la parole de Dieu, au Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi d'Abraham est la foi qui justifie le coupable, qui justifie l'impie. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Et il devint ainsi ami de Dieu. C'est la figure centrale au milieu de cette personne dont l'histoire est absolument remarquable dans la Genèse. Mais nous n'avons pas le temps ce soir de nous étendre sur les personnages en question. Nous voudrions, avec vous, chers amis, vivre quelques moments avec Abraham. Il est venu d'un très lointain pays, appelé par Dieu. Et ne sachant où il allait, il a obéi à la parole de Dieu pour venir s'installer dans la terre de Canaan que Dieu voulait lui donner. Un pays particulièrement privilégié, sur lequel repose la faveur de Dieu. Et les prophètes parleront de ce pays en termes qui ne manquent pas de nous saisir, le pays de beauté, un ornement entre tous les pays, le pays sur lequel les yeux de Dieu se reposent toute l'année, en faveur, en bénédiction. C'est la terre qu'il voulait donner à son serviteur Abraham. Et non seulement à Abraham, mais à sa semence, c'est-à-dire à sa famille, à sa descendance. Mais avant que ce pays soit mis en possession effective d'Abraham, il fallait d'abord que les habitants en soient dépossédés. Nous sommes sur le terrain de l'Ancien Testament. Nous saisissons bien que notre guerre aujourd'hui n'a plus rien de commun avec ce que Dieu ordonnait dans ces jours-là. Mais nous rappelons une expression de l'Écriture, le pays vomissait ses habitants. En quelque sorte, la terre elle-même ne pouvait plus supporter cette population qui s'était enfoncée dans la corruption la plus horrible, avec des pratiques qui sont repoussantes et que la conscience naturelle ne condamnait pas. Il faut bien dire cela en passant à l'égard de ceux qui disent « si nous nous conduisons selon notre conscience, tout va bien ». La conscience n'a pas réagi dans ces jours-là, alors que les faits, les circonstances, les actes posés par les hommes étaient horribles, la terre elle-même ne pouvant plus le supporter. Et nous pouvons dire en passant ce qu'Ésaïe confirmera, nous ne touchons pas impunément au fondement de la société des hommes que Dieu a établie. Ésaïe, pour un temps tel que celui-ci, où l'on appelle le mal bien, et le bien mal dira, ils ont violé l'alliance, ils ont changé les statuts. Avons-nous besoin de donner des exemples? Ils ont méprisé ce que Dieu a établi. C'est pourquoi ils doivent supporter la peine de leur iniquité. On ne peut pas impunément rompre le contrat que Dieu a établi, rompre les fondements, toucher aux fondements que Dieu a établi, sans en connaître tous les préjudices les plus graves. C'est pourquoi je rappelle l'expression, nous ne voulons pas nous arrêter longtemps, mais pour ne pas la tronquer, nous rappelons cette expression du prophète Ésaïe, vous la virez tranquillement, elle se trouve au chapitre 24e. Ils ont changé le statut, violé l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré le pays et ceux qui l'habitent subissent, doivent subir la peine de leur culpabilité. C'est pourquoi il ne restera que peu d'hommes. Eh bien, Abraham se trouve dans ce pays entouré de telles populations. Mais le temps n'est pas encore venu pour que ces populations soient liquidées de la scène. Pourquoi? Parce que Dieu n'exécute le jugement que lorsque le mal a atteint son apogée. Et Dieu attend, dans sa patience, veut que tous les hommes soient sauvés. Son œuvre étrange, c'est bien de juger, c'est bien de châtier. Et il fait de pressants appels encore aujourd'hui pour que le pécheur s'arrête sur ce chemin d'égarement afin d'éviter le jugement qui est au bout de ce chemin. Et Dieu dit à Abraham, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Il faudra encore attendre 4 siècles. Sauf qu'Abraham se trouve comme un étranger dans ce pays qui lui appartient. Et de là, ce qui corrobore ce que nous disions, c'est une figure centrale du livre de la Genèse, car c'est le père de nous tous. Paul le dit dans l'Épître aux Romains. La foi d'Abraham, pratiquement, l'établit dans un pays exactement comme nous le sommes aujourd'hui, car nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des étrangers dans un monde qui nous appartient. Mais pas maintenant. C'est ce qui faisait dire à nos chers devanciers, et pas des moindres, à qui on proposait une situation dans le monde à la mesure de ses capacités, de ses facultés exceptionnelles. Mais il répondait, vous me proposez de briller dans le monde grâce à mes capacités, mais de quel monde me parlez-vous? Car il y a deux mondes. Il y a le monde actuel, aux mains d'un usurpateur, où nous sommes des étrangers, un monde rempli de violence et de corruption, qui doit être mis en ordre. Le vaisseau doit être purifié par le feu, avant que la gloire vienne le remplir. Mais quand la gloire le remplira, se réalisera ce que Paul a dit, toutes choses sont à vous, soit vie, soit mort. Elle a été vaincue. Soit monde, c'est le monde habité à venir dont nous parlons. Celui-là nous appartient, mais nous le posséderons avec le Seigneur, car le monde est l'héritage du Seigneur, l'héritage terrestre, le royaume du monde, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur n'a pas dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas de cette manière que le Seigneur a parlé. Il a dit à Pilate, maintenant, aujourd'hui, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais Pilate et tous ses semblables connaîtront demain qu'il est juge des vivants et des morts et que le monde dans lequel il a souffert est le monde qui lui sera servi. Sauf qu'Abraham, pour revenir à cette figure centrale du livre de la Genèse, est un croyant, tout comme nous, dans la terre que Dieu lui a donnée, il n'est qu'un étranger. Vous ne laissez pas chauffer trop fort. De sorte que Lot, lui, il va choisir, et il va choisir par lui-même pour la satisfaction de tout ce que requiert sa vie, ses serviteurs. Il va choisir la plaine du Jourdain, une histoire qui a été souvent méditée au milieu de nous. Abraham ne laisse Dieu choisir pour lui. Et quand Lot a fait ce choix désastreux, malgré les belles apparences, car c'était comme le jardin de l'Éternel, la plaine que Sodome avait, que Lot avait choisie. Apparemment, c'était quelque chose que Dieu bénissait. Mais c'était une image trompeuse, de sorte que Abraham, lui, monte sur la montagne, et dans la communion avec Dieu, il reçoit cette communication. Eh bien, regarde, Abraham. Moi, je t'invite à lever les yeux. Et l'héritage que Dieu donne, la bénédiction que Dieu donne, ne comporte aucune peine. Et Abraham peut contempler tout le pays que Dieu lui donne, mais sans qu'il lui appartienne maintenant, effectivement. À ce moment-là se passe un fait qu'il convient de souligner. Après que Dieu l'a invité à regarder en long et en large tout ce pays qu'il lui donne, voilà qu'Abraham, excusez l'expression un peu triviale, Abraham déménage. Il lève ses tentes, et il vient habiter auprès des chênes de Mamré, dans un champ, dans une contrée, qui est au cœur du pays de la promesse. Les limites n'ont pas encore été données de Dieu. Dieu les a données d'une manière générale dans le chapitre 12, et la promesse que Dieu a faite à Abraham devient la base de l'alliance que Dieu va confirmer au fur et à mesure que le temps va passer. Mais on peut se demander, pourquoi Abraham lève-t-il ses tentes, change-t-il son camp, après que Dieu lui a parlé, et vient s'établir à Hébron, au cœur du pays de la promesse, au cœur de la tribu de Juda, au cœur de ce territoire qui sera plus tard la tribu de Juda, c'est-à-dire la tribu royale. Pour quelle raison Abraham Il y a une raison pour laquelle Abraham leva ses tentes et vint et habita Hébron, dès que Dieu lui a fait cette promesse. Pourquoi Hébron? Qu'est-ce qu'Hébron signifie pour nous aujourd'hui? Eh bien, il faudrait bien plus qu'une soirée pour exposer tout le plan d'Hébron. Mais nous essayerons d'être concis et de fixer quelques jalons qui vous permettront, et nous le disons en toute humilité, mais qui vous permettront de saisir pour vous-même, de chercher par vous-même et de trouver cette merveilleuse histoire d'Hébron, qui pour nous est un symbole saisissant, un symbole des plus heureux de ce que nous possédons maintenant avec Christ, au-delà de la mort qu'il a vaincue. Satan, sa puissance a été détruite. Selon la promesse que Dieu avait faite dès le commencement, la semence de la femme, en s'adressant au serpent, elle te brise à la tête. Et dans sa défaite apparente sur la croix, car il n'y avait pas de défaite apparente plus marquante que celle-là, crucifiant faiblesse, mais dans sa faiblesse apparente, il remporte une victoire totale sur la puissance de l'ennemi, car descendant dans le tombeau, ils vont sortir par sa propre puissance, ils vont sortir victorieux, ayant brisé le pouvoir de celui qui tient le pouvoir, qui tenait le pouvoir le plus grand dans ce monde, c'est-à-dire la mort. Et en allant tout à l'heure, nous pourrons nous écrier, en printemps, la parole du prophète rappelée par l'apôtre, « Mort, où est ta victoire ? » Elle se situe à Hébron. La puissance de Satan se trouvait à Hébron. Et nous lisons dans le livre des Nombres, il y a deux versets dans un chapitre, deux noms qui sont cités et qu'il faut relier ensemble, en relation avec Hébron, puisque nous avons déjà un peu amorcé cette explication. Nous lisons dans le livre des Nombres. Au chapitre 13, il s'agit de la reconnaissance du pays par les espions, et au chapitre 13 du livre des Nombres, verset 22, ils montèrent et reconnurent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rob, quand on vient à Hamath. Ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron. Et là étaient Akimon, Chézaï et Talmaï en Fandanak. Hébron avait été bâti 7 ans avant son Égypte. Donc, Hébron qui est cité, et en même temps nous avons, dans le cours du chapitre précédemment, un nom remarquable, le nom d'un homme de Dieu, Josué, dont le nom était Osée, et qui devient Josué. Et vous savez bien que Josué est le nom hébraïque de Jésus, en quelque sorte. Car dans la première édition du Nouveau Testament, traduit en français par JND, édition de 1848, qui est d'ailleurs très rare, dans l'Épître aux Hébreux, au passage que nous lisons maintenant, « Car si Josué leur avait donné le repos, nous avons, car si Jésus leur avait donné le repos. » Alors, dans ce changement du nom d'Osée en Josué, Dieu nous montre déjà, chers amis, que nous n'avions pas seulement besoin d'une délivrance, mais qu'il voulait nous donner un sauveur. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et tu appelleras son nom Jésus. Osée, par promotion, Dieu récompensant sa fidélité, change son nom en Josué. Mais pour nous, quelle manifestation de la grâce de Dieu! Ce n'est pas seulement d'une délivrance que le pécheur avait besoin, mais d'un sauveur qui allait opérer un grand salut. Et ce n'est pas sans raison que dans ce même chapitre, nous avons le nom de Josué et le nom d'Hébron, car nous lirons plus loin tout à l'heure, si nous en avons le temps, qu'à Hébron habitait Anak, le géant, avec ses 3 fils. Et que cette ville d'Hébron, elle avait été bâtie 7 ans avant de son rang d'Égypte. Pourquoi ce détail? Si nous cherchons, le Seigneur va nous aider à trouver. Sortant d'Égypte, c'est Tanis. Dans les psaumes, nous trouvons plusieurs fois la mention de Tanis. C'est là que Moïse avait exécuté, avait affirmé la puissance de Dieu, de l'Éternel, en délivrance dans le delta du Nil, en délivrance en faveur du peuple, à Tanis. C'est là, nous dit le psaume, que Dieu avait manifesté sa puissance pour délivrer le peuple de l'esclavage du Pharaon. Mais nous nous arrêtons un instant dans cette ville de Tanis. Dieu avait déployé sa puissance pour vaincre le Pharaon, pour briser la verge avec laquelle il dominait sur ce pauvre peuple d'esclaves. Mais en fait, cette puissance de Pharaon qui maintenait Israël en servitude, elle se rattachait précisément à Hébron, cette ville bâtie 7 ans avant de Soran, mais reliée avec elle par le fait que la puissance que le Pharaon déployait contre ce pauvre peuple, il la tenait d'Hébron, il la tenait d'Anak, il la tenait du géant, c'est-à-dire de celui qui est le menteur et le meurtrier dès le commencement. Vous voyez l'identification? Le Pharaon qui a servi Israël à Tanis met en relation avec Hébron où siège le géant avec ses 3 fils, illustration de celui qui introduit le péché dans le monde et par le péché la mort. Voilà, chers amis, un acte de foi incomparable posé par Abraham. Il vient donc s'établir à Hébron, là où vit le géant avec ses 3 fils, un lieu redoutable entre tous. Mais la foi d'Abraham a saisi qu'un jour cette puissance serait détruite et que le pays appartiendrait à sa descendance, selon la pensée de Dieu, le pays étant nettoyé de tous ses ennemis, et enfin Israël jouissant, selon le propos de Dieu, en paix, en grâce et en bénédiction de tout ce que Dieu avait conçu pour lui. Quelle image pour nous, chers amis. Quelle image pour nous. Pouvons maintenant nous tenir à Hébron. Et nous l'avons dit tout à l'heure en nous en allant, en quittant cette scène, nous allons nous écrier mort, puissance d'Hébron, puissance de Satan à l'œuvre, où est ta victoire? Elle a été engloutie, dit l'apôtre. Et nous allons dire cela, crier cela, puisque Satan sera brisé sous nos pieds dès que nous allons partir. Vous voyez cette première scène d'Abraham, nous n'avançons guère, mais elle est très importante. Le fait qu'Abraham vient s'établir à Hébron pose devant nous un acte de foi, un acte d'intelligence d'Abraham. Selon la pensée de Dieu, il a compris que le pays n'appartiendrait à sa semence, à sa descendance, que lorsque les ennemis seraient détruits. Mais dans sa foi, la foi des élus de Dieu, qui tient comme acquis les choses qui ne se voient pas encore, il vient là en présence du géant établir ses tentes pour lui dire, un jour, nous posséderons ce pays et tu seras détruit. C'est un acte de foi extraordinaire. La preuve en est, c'est que dans le chapitre 23, où nous avons lu quelques versets, Abraham va perdre son épouse. C'est une scène que nous ne pouvons pas lire sans profonde émotion. Elle illustre, elle rappelle ou elle annonce combien de deuils semblables dans la famille de la foi, combien de larmes répandues en présence de la mort qui intervient et qui brise les liens les plus doux, les plus chers au cœur naturel, implacable comme elle est, redoutable sans doute, ne se laissant fléchir par aucune supplication, agissant brutalement ou agissant lentement, avec, nous dirions, une lenteur qui éprouve au suprême degré et celui qui est atteint et ceux qui l'entourent, de quelque manière que ce soit, elle montre ce qu'elle est, cruelle, l'ennemi de l'homme, implacable, ne se laisse fléchir en aucune manière. Mais quel bonheur pour nous, chers amis. Paul dira, sans doute, nous versons des larmes. Nous ne sommes pas des stoïques, nous sentons bien la douleur. Et JLD dira, plus un croyant En faire avec Dieu, plus il est rendu sensible. Le Saint-Esprit opérant en lui, le rend sensible à toutes les souffrances qu'il rencontre et à celles qu'il éprouve en particulier. Mais c'est aussi le Saint-Esprit en lui qui le rend capable de soutenir cette peine, car le Saint-Esprit est un esprit de consolation. Le consolateur, dit le Seigneur, que je vous enverrai d'auprès du Père. Si l'Esprit en nous affine nos sentiments et donne, auréole les sentiments de bien des manières pour les rendre, pour les sublimer, pour les rendre infiniment précieux, c'est aussi le Saint-Esprit en nous qui nous aide à soutenir le chagrin, la peine que nous éprouvons quand ils sont rompus. Et vous voyez Abraham faire son épouse, et nous lisons Abraham, Sarah mourut à Kiriat Arba, qui était bon. Abraham n'a pas quitté cet endroit que nous venons de voir ensemble dans le chapitre 13. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Voilà l'attitude de cet homme de Dieu, le père de nous tous. Il vient pour mener deuil et pour pleurer sur Sarah. C'est un homme brisé par la douleur, qui ressent d'autant plus qu'il a vécu si longtemps avec sa compagne que Dieu lui avait donnée. Il vient pour mener deuil et pour pleurer. Voilà l'attitude d'un croyant. Mais, chers amis, ce n'est pas tout ce que le croyant réalise dans une situation semblable. Car il ne reste pas là, comme son petit-fils Jacob se lèvera dans des conditions semblables de devant le sépulcre. Il ne reste pas là brisé de douleur, dans le désespoir, comme si tout était perdu, comme si tout était anéanti. Ce n'est pas si bien pour pleurer, pour mener deuil, ce n'est qu'une partie de son attitude. Nous pleurons sans doute, puisque Paul dit nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais nous versons des larmes. Et cela serait-il étrange? Quel est le plus court verset du Nouveau Testament? Un sujet et un verbe. Jésus pleura. Lui-même a mélangé ses larmes avec son breuvage, a mangé de la cendre comme du pain. Mais la différence entre ses larmes et les nôtres, c'est que les siennes sont l'expression, le mot n'est pas le même dans l'original, les siennes sont l'expression d'une sympathie parfaite. Les nôtres, c'est le chagrin, c'est la peine qui nous étreint, qui nous écrase dans un sentiment d'impuissance lorsque nous sommes séparés de ceux que nous aimons. Mais avant de déployer sa puissance, Jésus pleura, a mélangé ses larmes avec celles qui pleuraient, avant de parler, avant de consoler, avant d'intervenir en puissance, il a d'abord mêler ses larmes avec ceux qui pleuraient. Quelle sympathie parfaite! Bien, Abraham vient pour mener deuil et pour pleurer, mais il ne connaît pas encore l'évangile selon Jean. Jésus n'est pas venu dans ce monde, mais il connaît quelque chose du cœur de Dieu, des compassions de Dieu, et il n'en reste pas là à mener deuil et à pleurer. Un de vos grands philosophes disait à l'égard de la mort en s'en moquant, mais chers amis, quand il a dû se trouver confronté lui-même avec ce seuil redoutable, vous savez bien, chacun a lu ce que cet homme, il s'agit de Voltaire, ce que cet homme a pu dire, et la scène horrible à laquelle ont assisté ceux qui ont été témoins de sa fin. Misérable fou que j'étais, disait-il, dans une scène que ceux qui l'ont vu ont dit plus jamais nous ne voudrions assister à quelque chose de semblable. Se moquer de Dieu. Je disais, la mort, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un sommeil, la mort. Et la mort ressemble au sommeil, comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau, sauf que l'on ne s'éveille plus. Mais il avait compris trop tard que la mort n'était pas une goutte d'eau qui ressemble à une autre goutte d'eau, que c'était la comparution devant Dieu, que mourir, c'était le jugement de Dieu, la sanction de Dieu sur le pécheur, et qu'après la mort suit le jugement. C'était trop tard maintenant, après s'être moqué de Dieu, plus de salut pour quelqu'un qui s'était moqué de Dieu, qui s'était plongé dans l'incrédulité, et qui avait entraîné à sa suite tant de misérables sur ce chemin d'incrédulité. Mais ce n'est pas une goutte d'eau qui ressemble à une autre goutte d'eau. C'est quelque chose d'infiniment douloureux. Mais voilà, j'ai la ressource du croyant. Vous voyez, Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Mais tout de suite au verset 3, et Abraham se leva de devant son mort. Voilà, d'un côté, les affections brisées, les sentiments qu'elles produisent en nous. Mais d'un autre côté, la foi des élus de Dieu, voilà l'attitude qu'elle donne de manifester, de montrer en croyant vis-à-vis de ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà ce qu'Abraham est, un élu de Dieu, un croyant, et il peut dire, il se lève de devant son mort dans la dignité de la foi. Et où va-t-il enterrer son mort? Il va acheter dans cette terre de Canaan un petit champ dans lequel il y a une caverne, la caverne d'Hébron, à Hébron justement, là où siège, nous l'avons vu ensemble, là où siège Anak et ses fils, c'est-à-dire les géants redoutables. Quand Moïse parlera de ces géants dans le Deutéronome, il rappellera au peuple que lorsqu'il fallait monter à l'assaut de ces forteresses tenues par les géants, que c'était quelque chose de redoutable. Mais, comme l'avait affirmé Josué et Caleb, Dieu marchait devant son peuple, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est la différence entre Josué et Caleb et les 10 espions qui, eux, n'avaient vu que les géants et qui disaient sans doute le pays est beau. Vous voyez ce que nous rapportons, mais nous sommes incapables d'aller contre ces géants. Nous étions comme des sauterelles à côté d'eux. Josué et Caleb sont-ils des visionnaires? Sont-ils des aveugles? Pas du tout. Mais eux, au contraire des 10 espions qui font fondre le cœur du peuple par leur incrédulité, Josué et Caleb, tout simplement, on met entre les ennemis et le peuple d'Israël, ils ont mis l'Éternel. Et si l'Éternel marche devant son peuple, chers amis, quel ennemi peut empêcher le peuple d'avancer, si redoutable soit-il? Eh bien, voilà la foi d'Abraham à Hébron, là où se trouve cette puissance déployée par Anak, figure, image de Satan. C'est là qu'Abraham vient demander au fils de Heth d'avoir un petit champ qu'il va payer dans la terre qui lui appartient, montrant bien son caractère d'étranger. Sa tente et son hôtel le prouvent à suffisance, et son attitude ici la corrobore entièrement. Il va acheter ce champ pour y enterrer son mort, affirmant ainsi qu'un jour, c'est là que la victoire aurait lieu, que la défaite des ennemis serait opérée par celui qui devait venir. Et Abraham sait bien que, à partir du sacrifice de son fils, qui a été pour Dieu entièrement consommé, Abraham sait bien que Dieu a confirmé les promesses qu'il lui avait faites, parce que tu as fait cette chose-là, parce que Christ a été offert, parce qu'il a donné sa vie, parce que Dieu l'a livré, n'ayant personne de plus grand par qui jurer, l'Éternel dit à Abraham, je jure par moi-même, parce que tu as fait cette chose-là, je vais te bénir, de sorte que par deux choses immuables, la parole de Dieu et le serment qui la confirme, nous avons maintenant une ferme consolation. Certes, en bénissant, je vais te bénir, et tu vas avoir une semence comme les étoiles des cieux, celle parmi laquelle nous avons place maintenant, croyant de cette économie, et tu auras une semence comme la poussière de la terre. C'est la semence pour la terre, c'est Israël et les nations qui lui sont associées, car l'Éternel n'oublie pas que il y a les nations en même temps qu'Israël pour la terre, pour la bénédiction qu'il va répandre sur celle-ci. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi des nations. Et tout reposera sur le sacrifice d'Isaac, sur la semence d'Abraham qui est, comme le dira l'apôtre, qui est Christ. Parce que tu as fait cette chose-là. Dieu lui a confirmé les promesses qu'il lui avait déjà faites auparavant. Et Abraham montre ici le prix que cette promesse a pour son cœur. C'est à Hébron qu'il vient enterrer son épouse. Nous avons maintenant, dans le court récit que nous avons lu à la fin de la vie de Jacob, l'affirmation de cet homme, ce patriarche, à la fin de sa vie. restauré. C'est un coucher de soleil magnifique attendu après une vie tourmentée. Et quel magnifique tableau nous laisse Jacob. Bénissant ses fils, disant à chacun de la part de Dieu quelle serait son histoire. Ce que l'histoire a confirmé entièrement. L'histoire passée jusqu'à la croix, l'histoire présente depuis la croix qui va se terminer, l'histoire à venir qui va commencer lorsque le Seigneur va à nouveau s'occuper d'eux. Trois noms des fils de Jacob pour le passé, trois noms pour le présent actuel, et c'est saisissant, et trois noms pour demain, et trois noms alors pour nous parler de celui sur lequel tout repose, Judas, Joseph et Benjamin, le loup qui déchire. Eh bien, tous ses fils sont là autour de lui. L'aîné a 65 ans, vous le savez bien, et le plus jeune a une cinquantaine d'années. Ces 12 hommes sont là, et Jacob va leur dire en quelques mots saisissants, un raccourci extraordinaire. Jacob va dire pour chacun quelle est son histoire prophétique. Et enfin, le mot dans l'original paraît-il est semblable, s'appuyant ou sur son chevet ou sur son bâton, et le bâton illustre évidemment la position d'étranger, de voyageur, la position que Jacob, comme tous les fils de la famille de la foi, tous ceux qui font partie de cette famille de la foi, l'attitude qu'ils ont, c'est le bâton du voyageur, attendant ce que Dieu va opérer un jour, et portant ses regards, bien que presque aveugles, voyant jusqu'au bout des collines éternelles. Saisissant déjà quelque chose de ce que nous allons voir tout à l'heure, l'héritage céleste qui se résume en une phrase que personne ne saurait expliquer sans doute quant à sa densité, Dieu est en tout et en tous. Voilà les collines éternelles, le sommet des collines éternelles qu'Abraham, que Jacob, aveugle, discerne dans leur lointain, et il énonce pour chacun quelle sera sa part dans l'héritage terrestre. Mais il voit pour Joseph déjà quelque chose. Pour Joseph, type de Christ, il voit ce qui sera réalisé un jour, Dieu tout et en tous. Dieu tout comme objet pour chacun. Dieu remplissant chacun et en tous comme capacité divine de jouir de Dieu. C'est le sommet. C'est l'éternité bienheureuse. Afin que Dieu soit tout et en tous. Jacob a saisi quelque chose de cela. Mais il veut, et dans ce jour-là, nous pensons bien que il y avait une signification pratique, une signification qui ne manquait pas d'impressionner et de donner la preuve que quelqu'un était dans ses sentiments avec Dieu. Jacob ne veut pas d'un mausolée en Égypte, étant assis à côté du trône de Joseph. Il aurait pu avoir quelque chose qui ressemblait sans doute à ce que l'on bâtissait à l'époque, dont on a des vestiges encore aujourd'hui. Extraordinaire. Jacob n'a rien de commun avec ce que les hommes édifient. Pour établir, si somptueux qu'ils soient, leur sépulcre. Non, ce que Jacob veut, c'est que de l'Égypte, il faut que vous me remontiez en Canaan. Il le fait jurer à ses fils. Et il précise de la manière la plus qui ne laisse aucun doute, sans équivoque aucune, il précise l'endroit où ses os doivent être placés, à côté d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et de Léa et de sa mère Rebecca. C'est là qu'il faut placer ses os, parce que cet homme de foi a mis sa confiance aussi dans la parole de Dieu, et il estime, il croit qu'un jour, c'est à Hébron que Dieu va opérer cette puissance, renversant les ennemis et en même temps ressuscitant ceux qui sont de la foi de Jésus. C'est dans cette caverne, avec le Père de la foi, que je veux être enterré. Non pas dans un mausolée en Égypte. Le cœur de Jacob rejoint la foi d'Abraham. C'est là, dans cette caverne, qu'il faut être enterré. Quel exemple pour nous, jeunes, pour nous. L'endroit où nos pauvres restes sont déposés n'a aucune espèce d'importance. Nous savons bien qu'à la voix puissante du Seigneur, la terre va jeter dehors ses trépassés. Le Seigneur, par son cri de commandement, par sa voix puissante, va réveiller ceux qui se sont endormis, d'abord les premiers, nous nous serons changés et nous partons de tous les endroits de la terre pour nous rencontrer sur la nuée. Mais dans ces jours-là, l'acte posé par Abraham, acte de foi, était celui de sa descendance, et c'est à Hébron qu'il faut que mes os soient enterrés. Nous avons encore peut-être quelques minutes et nous pourrions encore voir quelque chose d'Hébron en relation avec notre position actuelle comme croyants. Si vous voulez bien, nous allons ouvrir le livre de Josué et nous allons lire quelques versets rapidement. C'est un autre aspect du tableau, mais infiniment précieux pour nous. Dans le chapitre 14 du livre de Josué, nous ne faisons évidemment toucher les bords de cette étoffe incomparablement belle. Il faut prendre le temps de lire attentivement et méditer sur ces différents aspects que Dieu nous donne de cet endroit d'Hébron si significatif pour nous. Dans le chapitre 14 du livre de Josué, nous sommes arrivés à la fin des guerres de possession dans ce pays. Chacun maintenant va recevoir la part de l'héritage à laquelle il a droit. Et voici qu'un homme va s'avancer dans ce chapitre 14. C'est un homme extraordinaire. C'est Caleb, est-il dit, fils de Jéphuné, le Kénizien. Tout d'abord, son origine, pour un Israélite orthodoxe, dirions-nous, et imbu de ses privilèges, c'est un homme douteux, un Kénizien. Caleb, nous l'avons au verset 6 du chapitre 14, Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien. Or, si nous ouvrons le livre de la Genèse, les Kéniziens sont une peuplade qui, comme les Kéniens, les Hétiens, les Cananéens, devaient disparaître de la terre d'Israël. Qu'apprenons-nous par cette mention? Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, qui devient le prince qui sera désigné par Moïse pour aller découvrir le pays de Canaan. Comment se fait-il qu'un étranger qui devait disparaître de la scène devient tout à coup propulsé à cette hauteur des privilèges incomparables d'être un prince en Israël? Est-ce que cela est tellement étrange? Est-ce que nous ne trouvons pas à la même époque une pauvre fille dont la parole de Dieu rappelle l'origine si ténébreuse, si misérable? Rahab, la prostituée. Et où la trouvons-nous? Nous la trouvons devenir une princesse en Israël, comme Ruth, la Moabite, à l'égard de laquelle, tribu, peuplade à l'égard de laquelle l'Éternel avait dit, jamais le Moabite n'entrera dans ma maison, même pas la dixième génération. Et nous avons maintenant Ruth, la Moabite, elle devient l'arrière-grand-mère de David, du roi David. Et nous trouvons le nom de Rahab, le nom de Ruth, dans la généalogie la plus prestigieuse qui soit, celle du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Matthieu 1 montre d'où Dieu a tiré ces pauvres créatures et les sommets auxquels il les établit en vertu de celui qui naît et qui va donner sa vie dans la généalogie de Jésus. Fils d'Abraham, fils de David, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, grâce à son œuvre, voilà le Kénizien qui devient un prince en Israël. Une prostituée devient une princesse. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà la grâce de Dieu dont nous avons déjà des aperçus, c'est ce qui sont dans l'Ancien Testament. Eh bien, ce Kénizien, ce Caleb devient donc un prince en Israël de la tribu de Juda. Et nous savons son histoire, comment il va affirmer que Dieu est bien capable de donner ce pays à son peuple, si Dieu est pour nous, qu'est-ce que les ennemis peuvent faire, si grand, si redoutable soit-il? Eh bien, il vient auprès de Josué. Il dit, Josué, maintenant, tu sais qu'il y a 45 ans, nous étions ensemble. J'ai 85 ans aujourd'hui. Et dans ces jours-là, c'est le récit que nous avons. Dans ces jours-là, il rappelle à Josué la scène comme elle s'est déroulée. Et il peut dire, j'ai suivi pleinement l'Éternel. Avec la grâce qui m'a été donnée, j'ai suivi pleinement l'Éternel. La chose est répétée plusieurs fois. Quel exemple pour nous, jeunes. Si le Seigneur pouvait dire de nous, en lisant dans le secret de nos voix, eh bien, se croyant comme pour cet homme, il me suit pleinement. Quel bonheur nous éprouvions dans notre cœur de pouvoir, si nous pouvions marcher de cette manière, suivre pleinement le Seigneur, pas à moitié, pas en boitant, mais suivre pleinement le Seigneur comme cet homme l'a fait. Et maintenant, dit-il à Josué, pour nous rater un peu, et maintenant, dit-il, il faut que tu me donnes l'héritage auquel j'ai droit. Qu'est-ce que tu vas choisir, Caleb? Tu peux choisir les vignobles les plus productifs, les plaines les plus fertiles. Tu as le droit, tu peux choisir. Tout ce que tu vas demander t'appartient. Qu'est-ce que Caleb va choisir, ça? Pour l'homme, mais c'est un choix étrange. C'est le choix d'un homme déraisonnable. Il va dire à Josué, eh bien, donne-moi Hébron. Donne-moi la caverne de Hébron, dans laquelle le père de la nation, le père de nous tous, car je suis un homme de foi, bien que je ne sois pas israélite de naissance, j'appartiens à la famille de la foi. Et je souhaite obtenir cette part d'Hébron, là où repose, là où la mort a fait son œuvre, où reposent les os de nos chers devanciers, car je sais que là, Dieu va opérer en puissance lorsque la résurrection triomphante aura lieu et que tous les ennemis, la mort sera vaincue. Et il y a des ennemis redoutables, nous le lisons dans ce chapitre. Arba, fin du chapitre 14, vous voyez, Hébron était auparavant Kiriath Arba. Arba était le grand homme parmi les Anakins. C'était un endroit redoutable. Eh bien, c'est cela que Caleb vient demander à Josué. Qu'est-ce que Josué fait? Eh bien, il regarde cet homme. Et Josué, certainement, a son cœur rempli d'émotion, en voyant que c'est ce vieux compagnon, ce vieux guerrier, qui est encore fort comme il y a 45 ans, va mettre son épée au service de Dieu pour se mesurer, avec, au lieu de chercher le repos, au lieu de jouir d'une plaine fertile et des vignobles qui auraient pu le combler. Non, il veut continuer la guerre, car la guerre ne cessera pas, il le sait bien, que ce n'est pas le moment du repos, c'est le moment de la guerre. Le moment du repos s'approche, mais jusque-là, nous avons à lutter. Caleb le sait, et il veut, non plus aujourd'hui pour nous, une lutte contre le sang et la chair, mais nous aurons la guerre de génération en génération avec celui qui a introduit le mal dans ce monde. Et Caleb pose dans son choix celui de la foi. C'est Hébron que je désire, la caverne avec tous les ossements, car là Dieu opérera la délivrance et je veux m'identifier avec ce propos de Dieu qui triomphera un jour grâce à l'œuvre de celui qui doit venir. Et enfin, vous voyez, c'est une chose extraordinaire. Maintenant, Caleb va se battre et il va posséder. Ce n'est pas un homme qui est rempli de lui-même, qui est prompt pour prendre une décision inconsidérée. Comme vous verrez dans le récit, il y a un peut-être. Et le peut-être n'est pas un peut-être de doute, mais c'est le peut-être de la dépendance. Dieu sera avec lui, mais ce n'est pas un homme qui se base sur lui-même, sur ses capacités. Il compte sur Dieu. Mais est-ce que Dieu ne va pas mettre ses ressources à la disposition d'un homme de foi tel que lui? Et nous lisons dans ce chapitre qu'il va remporter la victoire sur le géant et sur ses trois fils. Et pour nous, qu'est-ce que c'est, chers jeunes amis? Quel est, que veut dire Anak pour nous et ses trois fils? Parce que vous avez affaire avec eux. Nous avons affaire avec eux, un jeune homme, une jeune fille, qui que nous soyons. Et nous ne pouvons pas éviter ce combat si nous sommes croyants. Car la possession de la vie en nous et la réception du Saint-Esprit fait qu'il y a un combat incessant en nous. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit convoite contre la chair. Voilà une manière de s'exprimer de l'apôtre. Nous avons toujours la chair en nous sur laquelle Anak et ses trois fils agissent, ce sont leurs alliés. Et le principal ennemi avec lequel nous avons affaire, où est-il? Où se trouve-t-il? Il se trouve en moi, il se trouve en vous. C'est notre pauvre cœur naturel que Anak et ses trois fils séduisent, dans l'enceinte duquel ils mettent en mouvement les convoitises qui, ayant conçu, enfantent le péché. Et le péché, quel triste cortège, étant consommé, produit la mort. Quelle est la délivrance? La délivrance, c'est de nous tenir nous-mêmes pour mort au péché. Et comme impuissant
parce que le Seigneur l'a vaincu, le Seigneur a détruit les œuvres du diable, devenir pour l'impuissant celui qui dompte les hommes, mais qui devant le croyant doit s'enfuir comme un oiseau de nuit. Arrière de moi, Satan. Résistez au diable, il s'enfuira de vous. Voilà le secret de la victoire. Eh bien, ce Caleb va se mesurer avec le géant et ses trois fils. Et pour nous, pour vous, chers enfants, qui est-il ce géant? C'est évidemment Satan et ses trois fils. Bien, nous pouvons dire, l'épître de Jean nous situe avec exactitude les trois fils du géant. C'est-à-dire, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voilà les trois fils du géant qui domptent les hommes. Mais j'ai reçu de la part de Dieu les ressources, la capacité pour vaincre, pour surmonter ce qui dompte les hommes. Car je ne suis plus vaincu. Je suis du côté du vainqueur. Quelle est maintenant, en terminant, la destination de Hébron? La mort. Que Caleb a fait un choix, probablement un choix du Kyrion, absolument déraisonnable. Mais il sait que la mort est une servante maintenant que Dieu donne à notre disposition. Mortifiez vos membres qui sont sur la terre. La mort, Dieu me la donne à mon service pour mortifier mes membres moraux. Vous voyez, Caleb a déjà saisi quelque chose de ce grand mystère. Et enfin, dans le chapitre 20, 21, vous allez voir comme c'est précieux. Cette ville de Hébron, à qui va-t-elle être donnée? Donc, nous sommes dans ces chapitres confrontés en présence de la division du pays. Et une famille particulière, les Lévites, n'ont pas d'héritage, sauf qu'ils reçoivent de chaque tribu quelques villes, dont certaines parties d'entre elles sont des villes de refuge. Ce n'est pas difficile si nous avons lu un peu la parole de Dieu. Nous savons bien que la ville de refuge, c'est une image du salut que Dieu offre aujourd'hui. La ville de refuge, en quelque sorte, c'est l'Église, car nous sommes sauvés et introduits dans l'Église. Bien, on donne alors les villes de refuge aux fils de Lévi. Ils n'avaient pas d'héritage en Israël. Ils sont exactement ce que nous sommes également aujourd'hui. Si on avait rencontré un fils de Lévi, on lui demandait, tiens, où habites-tu toi? Quel est l'héritage que tu possèdes? Non, moi, je n'ai pas d'héritage. Dieu ne m'a pas donné d'héritage. Je suis dans la terre d'Israël sans héritage. Mais l'Éternel a dit, je suis ton héritage. C'est moi l'Éternel, ton héritage. Vous voyez quel sort précieux pour cet homme. Il n'avait pas de lieu qui lui appartenait en propre. Il était un étranger dans la terre d'Israël, mais Dieu était son héritage. Il n'y avait pas de lot plus précieux que celui-là. Alors vous lisez dans le chapitre 21, on donne pour les fils d'Aaron, verset 10, les familles des Kéatites, il est dit qu'au verset 10, le premier lot fut pour eux. Aaron et ses fils, c'est donc une image des croyants que nous sommes aujourd'hui, Christ et les siens. Eh bien, on donne le premier lot. Dieu va donner le premier lot, le meilleur des lots. Quel sera-t-il? Pour Aaron et pour ses fils, pour la famille en Israël la plus privilégiée, qui est le titre de ce que nous sommes aujourd'hui, en association vivante avec Christ, étant faits tous d'un, dit l'Épître aux Hébreux, étant un avec lui, vivifiés ensemble avec lui, assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que Dieu donne à Aaron et à ses fils dans ce jour-là? Mais c'est merveilleux. Vous voyez ce que nous disons là, pour les fils d'Aaron, verset 10, des familles des Kéatites, dont les fils de Lévi, car le premier lot fut pour eux, on leur donna Kiriat Arba. Arba était père d'Anak, Hébron, dans la montagne de Juda. Voilà le premier lot, le sort le plus précieux à l'estimation de Dieu qui est donné à Aaron et à ses fils. Eh bien, je n'aime pas ce que nous allons chanter demain, n'est-ce pas ce que nous allons célébrer demain? N'allons-nous pas nous entourer la table du vainqueur, de celui qui est ressuscité, et n'allons-nous pas célébrer le meilleur des lots que Dieu nous a donné? Par sa mort, nous avons la vie, et la mort que nous allons nous souvenir est celle qui nous a ouvert le chemin nouveau, vivant, jusqu'au séjour suprême, où Dieu va nous accueillir tous ensemble, lorsque le Seigneur va nous présenter en disant, me voici tout ce que tu m'as donné. La preuve, c'est le dernier passage, mais nous n'avons plus le temps, vous le lirez dans le deuxième livre de Samuel. Un homme Et maintenant, au bout de ses peines, de ses tribulations, c'est David. Et le chemin du trône est ouvert devant lui. Et David est un homme dépendant, jusque-là en tout cas. Et il demande à Dieu, voilà maintenant, mais tous les ennemis sont mis de côté. Tu m'as pris des parcs où je paissais le menu bétail de mon père et tu m'as dit que j'allais être prince en Israël. Eh bien, où veux-tu que je me rende pour recevoir la couronne? Qu'est-ce que Dieu va dire, cher ami? Qu'est-ce que Dieu va dire à David? En nous asseyant, nous lisons ce verset. C'est ce que nous venons de rappeler devant vous, le but vers lequel tout converge et que nous allons connaître peut-être ce soir, peut-être cette nuit. Eh bien, l'Éternel lui dit, monte, je vais mettre la couronne sur ta tête. C'est dans 2 Samuel 2, vous verrez cela. Et il dit, et David dit, mais où monterai-je? Où vais-je monter, Éternel, pour recevoir la couronne du royaume? Eh bien, les prophètes ont rendu témoignage aux souffrances qui devaient être sa part, mais aux gloires qui suivraient. Où vas-tu monter, David? Eh bien, David monte à Hébron. Et c'est là que David, dans ce lieu de mort, de cette caverne qui rappelle la mort, mais la mort vaincue, c'est là que Dieu met la couronne sur David, celui qui représente un Christ victorieux. Et David n'est pas seul pour jouir de ses triomphes, de son triomphe, il a ses deux femmes avec lui. Il a le résidu Achinoam, le résidu d'Israël qui est le noyau du peuple futur. Son nom veut dire grâce du Fils, et il a Abigaïl, l'autre femme, femme de Nabal, le résidu d'Israël qui est devenu l'Église en acte 2, et dont le nom veut dire joie du Père. La joie que le Père a de donner l'épouse à son fils et qu'il va se présenter à lui-même tout à l'heure glorieuse.